Espace public, Couleur FM, Thierry Borde, bonjour. Bienvenue dans cet espace public de février, et plus précisément du 29 février. Cela n'arrive que tous les 4 ans, profitons-en. Nous allons essayer d'en profiter justement pour parler un peu de radio, petite séance d'autovalorisation ou d'autocritique selon les cas, autour d'une occasion qui nous est chère à Couleur FM, la journée mondiale de la radio. Sous l'impulsion de l'UNESCO, celle-ci a lieu tous les 13 février et promeut la radio comme un outil d'information et de communication au service des habitants, de leur territoire et des processus démocratiques dans le monde entier. La radio comme nous aimons la considérer ici, à Couleur FM, sur le 97.1. Nous en parlerons dans quelques instants avec Emmanuel Boutrin, le président de l'Association mondiale des radios communautaires. Le 11 février, l'avant-veille de la journée mondiale de la radio, avait lieu à Paris un procès un peu particulier qui touche la sensibilité de quiconque est attaché à une certaine idée de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Vincent Bolloré, l'industriel, poursuit nos confrères de Basta, du magazine Basta, en diffamation au sujet d'une enquête sur l'accaparement des terres dans les pays pauvres et en Afrique notamment. Mais les poursuites engagées par l'industriel ne s'arrêtent pas là et concernent aussi des médias, des journalistes ou des citoyens qui ont relayé l'information de Basta. Une actualité qui nous questionne donc profondément, à Couleur FM comme dans tous les médias citoyens de France. Nous nous y attarderons donc quelques instants, le temps de mieux faire connaissance avec Basta et avec cette thématique de l'accaparement des terres. Enfin, nous terminerons par un hommage. Hommage à Stéphane Hessel, résistant, rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, infatigable ambassadeur de la paix dans le monde, auteur du livre « Indignez-vous ». Stéphane Hessel nous quittait le 27 février 2013 et nous allons le réécouter dans une interview que nous avions eu la chance de réaliser avec lui un an auparavant. En attendant, un peu de musique, Luz Casal, Piensa en mí.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti.
Thank you.
cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida para nada, para nada me sirve sin ti.
Vous êtes bien sûr Couleur FM 97.1 dans le Nord-Isère, c'est Espace Public. Et pour commencer, nous allons parler un peu de radio, à la radio. Voilà, comme ça. Parce que la radio, c'est pas un média comme les autres. Son oralité la rend universelle, sa facilité de réalisation et de diffusion la rend accessible à tous. Elle est un vecteur d'information et d'éducation, de lien entre les habitants d'un même territoire. Elle peut être un média de divertissement ou de culture dans nos sociétés. Et elle peut aussi être absolument vitale dans des zones très défavorisées ou en conflit. Ses caractéristiques en font un formidable outil de développement de la démocratie, mais elle peut du coup aussi s'avérer un détestable instrument de propagande. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio du 13 février 2016, nous avons souhaité en savoir plus en interrogeant Emmanuel Boutrin, le président de l'AMARC, l'Association mondiale des radios communautaires. Emmanuel Boutrin, bonjour.
Bonjour.
Alors Emmanuel Boutrin, vous êtes non seulement le président d'une belle radio en Provence qui s'appelle Radio Fréquence Mistral, président aussi du Syndicat National des Radios Libres, mais nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre d'une autre de vos fonctions qui est celle de président de l'AMARC, l'Association Mondiale des Radios Communautaires. Et cette association mondiale est une association très importante pour toutes nos radios et en particulier relaie chaque année cette journée mondiale de la radio du 13 février. Qui a une importance particulière pour vous.
Oui, c'est tout à fait exact. Eh bien, écoutez, tout d'abord, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Couleur FM. Et c'est vrai que cette journée mondiale de la radio, c'est la journée pour les auditrices et les auditeurs de toutes les radios du monde, que ce soit les radios locales, telles Couleur FM, les radios commerciales, les radios du service public, comme le groupe Radio France. Alors, peut-être que je me dois d'expliquer ce que c'est que notre organisation non gouvernementale, l'AMARC, l'Association mondiale des radios communautaires. Et vous allez voir que c'est vraiment en lien avec cette journée mondiale de la radio. L'Association mondiale de la radio communautaire, c'est une organisation non gouvernementale qui est née en 1983 au Canada, et plus exactement à Moncton. L'acte de naissance a été justement le moment où des radios d'expression française et donc minoritaire au Canada ont pu se regrouper. Et c'était un moment historique important à la fois dans l'histoire de la francophonie au Canada et au Québec et pour les radios mondiales. Pourquoi ? Parce que c'est là, avec les États-Unis bien sûr et avec l'Amérique latine, que sont nées les premières radios locales associatives qu'ont appelé les initiateurs de ces radios, les artisans des radios communautaires. À cette époque-là, on disait, c'était à la fin des années 70, qu'on a appelé donc les radios communautaires, community broadcaster. Voilà pourquoi ce nom Association mondiale des radios communautaires, que j'aime bien rappeler, puisque c'était des radios de communauté, c'est-à-dire de villages d'expression française ou d'expression des cultures indigènes, ou il faut le souligner, dans les années 70, des radios de campus, qui étaient à cette époque très engagées contre la guerre du Vietnam, notamment au tout début des années 70. Voilà l'histoire de l'AMARC. Au fil du temps, l'AMARC est devenue une grande organisation non gouvernementale et a bien changé. Et les radios associatives et communautaires ont éclos partout dans le monde, et notamment en Afrique, en milieu rural, et en Asie, en milieu rural, mais également en France à l'occasion des bouleversements qui ont eu lieu au tout début des années 80, politiques bien sûr, mais également concernant la libéralisation des ondes, qui a été pour les radios libres, puisqu'on appelait ça les radios libres à l'époque, un moment de libération et pas seulement de libéralisation. Donc, nous en sommes aujourd'hui à 4 000 adhérents de par le monde, 4 000 radios locales, associatives, coopératives, communautaires, qui finalement, pour certaines d'entre elles, ont jusqu'à 30, 35 ou 40 ans d'expérience. Et vous savez, entre 35 et 40 ans d'expérience, on commence sérieusement à ne plus être comme au tout début, des artisans de la radiodiffusion, un petit peu comme des radioamateurs, mais de véritables professionnels avec des entreprises associatives qui ont des salariés, des programmes bien construits et qui rendent service en termes de divertissement, bien sûr, de diversité culturelle, mais également d'information locale, qui rendent d'immenses services aux auditrices et aux auditeurs partout dans le monde.
On a parlé de cette journée mondiale de la radio du 13 février. On connaît certaines journées mondiales, il y en a beaucoup, mais on connaît, je ne sais pas, celle du 8 mars qui va arriver pour les droits des femmes. Il y a la journée mondiale contre la faim dans le monde. Est-ce que c'est pas un petit peu futile, finalement, une journée mondiale pour la radio? À quoi ça sert?
Alors, justement, l'histoire de la radiodiffusion, c'est ça qui a fait cette journée mondiale de la radio. Il faut savoir une chose, au début des années 2000, l'Espagne, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas l'Espagne, avec un engagement très militant de journalistes espagnols, madrilènes plus exactement, ont demandé aux représentants de l'Espagne à l'ONU de promouvoir une journée mondiale de la radio. Ça, c'est l'histoire de cette journée mondiale de la radio qui a lieu maintenant depuis 5 ans, tous les 13 février. Cette idée a fait son chemin au milieu des années 2000 pour aboutir en 2011 à la première journée mondiale de la radiodiffusion avec comme promoteurs principaux les radios de service public, comme France Inter en France, mais surtout comme la BBC ou la radio publique espagnole, ou même une des moins connues mais non moins intéressante, la radio publique américaine. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans l'esprit de radio service public, c'est-à-dire radio de découverte, radio de service au public. Mais il manquait quelque chose, il manquait une dimension à ces radios, il manque toujours une dimension à ces radios nationales, publiques, et donc une dimension à cette journée mondiale de la radio, c'était la notion d'information de proximité. Qu'est-ce qui pouvait apporter dans la radio cette notion de proximité? Eh bien justement, ce sont les radios communautaires. C'est pour ça que Les radios de service public ont été extrêmement heureuses à partir de 2012 de trouver la marque à leur côté pour organiser cette grande journée. Alors on pourrait dire, ah oui, en effet, c'est futile, pourquoi il n'y a pas une journée mondiale de la télévision? Écoutez, ça j'en sais rien. Mais visiblement, la radio, c'est le média de référence écouté par 85% de la population dans le monde, où que vous soyez, à la maison, au travail, dans une salle de sport, sur un bateau, sur des lieux de conflit, dans des zones de catastrophes naturelles, sur votre tracteur ou votre cheval. C'est vraiment un média d'accompagnement et de référence. L'UNESCO a depuis longtemps, c'est l'Agence des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation, a depuis longtemps considéré, à juste titre, que la radio, c'était un moyen d'information et même d'éducation populaire qui était essentiel, et que la presse écrite, d'une part, et la télévision, d'autre part, qui sont soumis à d'autres contraintes en termes de contenu, d'une part, mais également en termes de modèle économique, ne pouvaient pas faire C'est-à-dire que la télévision ne peut pas, et on le voit en ce moment hein, d'ailleurs, avec, pour ceux d'entre nous un peu plus âgés, qui ont connu d'autres modèles de télévision que l'offre que nous avons actuellement, on voit bien qu'il y a une évolution. La télévision ne joue plus son rôle d'éducation populaire, elle joue surtout un rôle nécessaire qui est celui du divertissement. Elle joue de moins en moins un rôle de découverte. Eh bien, la radio, et notamment la radio de service public, il suffit d'écouter les chaînes de France Inter, par exemple, et les radios locales associatives jouent un rôle de découverte essentiel. Découverte de quoi ? Découverte des langues, découverte des situations locales que vivent les citoyens, découverte de la création d'entreprises sur les territoires, découverte des cultures locales. Eh bien, ça, c'est la radio qui en est l'instrument de connaissance. Et ça, honnêtement, ça ne fait aucun doute. C'est ça qui caractérise la radio par rapport à d'autres médias. C'est pour ça que l'UNESCO, à la demande de l'Espagne, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué au début, à la demande de l'Espagne, donc de journalistes radio espagnols, de la radio publique espagnole, a créé cette journée mondiale qui a été reconnue sur proposition de l'UNESCO, qui a été reconnue par les Nations Unies comme un jour important, au même titre que des journées de commémoration ou des journées sur les droits, comme les droits des femmes ou les droits des personnes en situation de handicap. On est vraiment là, donc, sur la reconnaissance d'un média, une reconnaissance universelle par les Nations Unies, d'un média qui, depuis les années 20, on va dire, à peu près les années 20, a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité, pas toujours un rôle de gentil. Les médias peuvent être, la radio peut être une radio de propagande ou même une radio méchante, une radio néfaste. On l'a vu avec l'affaire du Rwanda qui est née des émissions de radio Mille Collines, mais justement, cela montre bien avec l'affaire du Rwanda, mais d'autres également, que la radio est à la fois un instrument de libération et d'éducation. On l'a vu notamment dans les années 80 et 90 avec les radios locales d'Amérique latine. On les a vus avec les radios campus aux États-Unis à la fin des années 70, dans la lutte pour l'égalité pour l'égalité raciale. On le voit au Canada et partout dans le monde sur la notion de peuples indigènes et d'égalité des droits, mais également un pouvoir néfaste ou extrêmement néfaste, on a pu le voir dans les années 30 en Allemagne et dernièrement donc au Rwanda. Ça montre bien, et ça j'attire l'attention des auditrices et des auditeurs de Couleur FM, j'attire votre attention sur le fait que la radio est un instrument puissant. C'est très rigolo cette histoire, parce que c'est un instrument puissant, pourtant on le considère de manière générale, un peu par tous, que c'est un instrument qui a moins de valeur que la télévision, on écoute moins la radio que l'on regarde la télévision, ça a moins d'impact que dans certains pays que des journaux. Et aujourd'hui, on dit « Ah, la radio, c'est un peu dépassé parce qu'on s'informe très bien sur Internet ». Eh bien non, c'est faux, c'est un mythe. La radio reste un pouvoir magique. La radio, c'est la magie. Le pouvoir d'éducation et malheureusement parfois de persuasion de la radio, s'explique par le fait que c'est un média d'accompagnement. C'est un média qui nous accompagne où que l'on soit, que vous soyez au nord du Groenland ou au sud du désert du Kalahari, il suffit d'un petit transistor et de piles et vous pouvez écouter la radio. Et souvent, ce sont des radios qui sauvent des vies. C'est un média auquel on croit. C'est un média aussi dans lequel les professionnels sont extrêmement exigeants, peut-être plus exigeants qu'en télévision où le règne de l'image pervertit l'attitude des animateurs et des journalistes. C'est un rôle où le journaliste ou l'animateur ou le commentateur est en prise directe avec son auditeur ou avec son auditrice, comme s'il y avait une relation intime. La voix porte l'intimité. Et ce qui fait d'ailleurs aussi le succès, puisqu'on parle d'intimité, d'émissions dédiées à la jeunesse. Avec de très forts taux d'audience, à faire pâlir de jalousie les meilleures émissions de télé-réalité. La radio, c'est un vecteur, c'est un outil, et nous le considérons comme le service public, d'abord comme un outil d'émancipation et un outil d'éducation. Et bien, c'est ça que les Nations Unies ont reconnu pour commémorer chaque année un jour dédié à la radio, qui est le 13 février.
On connaît un petit peu la situation des radios associatives, donc il y a cependant des radios communautaires dans le monde, en France. Couleur FM en est une. Couleur FM, c'est une radio qui diffuse sur le territoire du Nord-Isère, autour de Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abo, etc. Et on voit bien effectivement ce rôle d'éducation. Et on voit aussi Radio Couleur FM est aidée un petit peu par l'État pour pouvoir faire cette mission. Est-ce que c'est une situation générale dans le monde entier? Comment fonctionnent les autres radios? Est-ce qu'elles sont toutes aussi développées qu'en France? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail, justement, parce que l'UNESCO, quand il préconise la radio, c'est aussi pour des endroits du monde où on ne peut pas capter la télé, c'est aussi pour des endroits du monde où l'oralité a une grande place, où on ne sait pas lire, où on ne sait pas écrire. Et donc, est-ce que, justement, ce développement se fait de manière uniforme dans le monde?
Absolument pas. Absolument pas. Il y a des pays où il y a tout simplement une question centrale de la liberté d'expression, comme par exemple les pays du monde arabe en général, où en effet il y a un problème d'accès aux ondes pour les radios locales, et particulièrement les radios locales associatives, qui, quand elles ne sont pas autorisées, dans la plupart des cas, sont parfois explicitement interdites. Donc dans tous les cas, dans les deux cas, évidemment, elle n'existe pas. Votre question pose deux questions fondamentales. D'abord, je viens de le dire, l'accès aux ondes pour les personnes qui veulent faire de la radiodiffusion, c'est pas évident, c'est pas toujours autorisé. Il y a environ 40 pays sur 195 maintenant qui autorisent explicitement les radios locales associatives à pouvoir obtenir une autorisation ou une licence, on appelle ça une licence parfois, et parfois elle coûte un petit peu cher. Donc on tourne autour de entre 30 et 40 pays où il y a d'abord une autorisation pour l'accès au spectre hertzien. La deuxième grande question que vous posez, c'est celle du modèle économique d'une radio. Une radio, c'est comme une entreprise. Il faut bien que quelqu'un, il faut bien payer l'électricité, il faut bien faire de la production audio, et parfois il faut, et c'est nécessaire, un journaliste professionnel et un animateur qui se lève tôt le matin et qui se couche tard le soir. Ça veut dire qu'il faut des professionnels, parce que on ne peut pas compter uniquement sur le bénévolat, comme au début des années 70 ou des années 80, c'était le modèle, le bénévolat était le modèle dominant. Donc la radio, c'est comme une entreprise. Les pays qui ont autorisé les radios locales, et notamment les radios locales associatives, sont bien conscients de ce problème. Certains d'entre eux, comme l'Irlande ou comme la France ou comme les Pays-Bas, ont inventé un système avec des contreparties. Ce système est d'abord un dispositif de financement où des fonds publics sont attribués à chacune des radios locales associatives à des conditions très précises. Ces conditions très précises, ce sont habituellement des cahiers des charges, assortis de contrôle bien sûr, mais des cahiers des charges où la radio locale qui obtient à la fois une fréquence et à la fois un financement public a le devoir, a certains devoirs, et notamment en termes de devoirs, vous avez l'information locale, être au service de la société civile ou des collectivités territoriales, ou donner des informations météo, ou des informations sur la circulation, ou sur les offres d'emploi, par exemple, ou sur des questions d'ordre sanitaire. Donc il y a un cahier des charges extrêmement précis. Vous en avez un en France, auquel il faut, qui n'est pas très contraignant, mais auquel il faut obligatoirement répondre. En Irlande, vous avez à peu près le même système avec un fonds de soutien, tout comme en France, qui n'est évidemment pas très élevé. Et ça, c'est toujours les mêmes questions d'argent, mais ce n'est pas l'objet de notre débat. Il y a des pays dans lesquels comme Haïti, dans lesquels on a toléré ou autorisé les radios locales associatives, mais qui ne bénéficient pas de fonds publics. Si je prends l'exemple d'Haïti, ce n'est pas un hasard, c'est que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, et un des 15 plus pauvres de la planète, et que, évidemment, Haïti n'a pas les moyens de faire un fonds de soutien, bien que les sénateurs et députés à Haïti y réfléchissent très sérieusement, au moins symboliquement. Parce que l'alternative, quand il n'y a pas de fonds publics du pays lui-même, c'est les financements internationaux. Et croyez-moi, les financements internationaux, ça pose un autre problème qui est celui de l'indépendance du média local par rapport aux bailleurs de fonds qui peuvent être internationaux. Et je peux vous dire que pour avoir accompagné des évolutions législatives dans certains pays, ça fait souvent problème. Ça, voilà. C'est-à-dire que on est quand même sur des médias, qui soient locaux ou territoriaux, qui ont dans tous les cas, et vous pouvez me croire, un très fort impact. Et les États concernés sont toujours très vigilants sur l'origine des ressources financières. Parce que on verrait mal en France, comme c'est le cas pour le Paris Saint-Germain, une radio locale subventionnée par des fonds qataris, eh bien, c'est interdit. Et c'est très bien. Eh bien, voilà, donc, de la même manière, dans certains pays arabes, ça bloque quand on dit que c'est des fonds public français ou américain qui vont financer une radio locale qui a un fort impact sur le territoire. C'est normal, c'est des questions tout à fait normales qu'il faut se poser, et la marque est justement là pour les résoudre, avec l'UNESCO d'ailleurs, hein. C'est un travail permanent, comment résoudre, comment adapter les législations et comment adapter les modèles économiques de ces médias, j'allais dire de ces petits médias. Non, pas petits, sur leur territoire, ils sont très très forts. On pourrait citer des tas d'exemples. Au Mali, vous avez 60, qui est un pays en guerre aujourd'hui, vous avez 60 radios locales en milieu rural qui font un travail extraordinaire lié au développement agricole, à l'irrigation, à la météo quotidienne. Et ce sont des radios qui sont nécessaires, parce que si personne ne prévient les gens d'une invasion de criquets, c'est très grave, et la radio prévient 3 jours avant. Donc les gens ont le temps de mettre leur culture à l'abri ou d'allumer des feux en bordure des champs pour éloigner les bancs de criquets. Donc au Niger, il y a également une très forte concentration de radios locales. Pourtant, ce sont des pays qui sont pas faciles, qui sont éloignés de notre façon de voir les choses. Eh bien, pourtant, la radio, en termes de lien social, joue un rôle dans ces pays essentiel. Au Sénégal, la radio joue le rôle de l'arbre à palabre. C'est là où vont se rencontrer les familles sous l'autorité des sages. On écoute la radio au pied d'un arbre et assis sur un banc. C'est ce qu'on appelle l'écoute collective, comme au Cameroun. Donc, c'est un moment très important de lien social pour le village, qui peut être un moment hebdomadaire, tout comme on peut projeter un film sur un drap dans un village pour regarder tous les mois ou tous les 2 mois un film. Donc on en est là, et c'est pour ça qu'il existe cette Journée mondiale de la radio. C'est bien parce que encore une fois, la radio est un outil très important, et c'est un outil non seulement d'information de proximité, de diversité culturelle, mais on a tendance à l'oublier, c'est un outil qui favorise le lien social. Et regardez à la maison, chez nous, là, pour en revenir un petit peu dans nos contrées françaises, regardez ce qui se passe. Quand la radio est dans la cuisine, tout le monde l'écoute au moment du petit déjeuner. C'est ça l'écoute collective. Et tout le monde va commenter la nouvelle Tout le monde n'est pas attentif au même moment, bien sûr, mais tout le monde au même moment va pouvoir, par une pirouette, par une remarque, commenter la nouvelle. Eh bien, est-ce que vous faites ça devant la télévision ? Non, pas forcément. Vous voyez bien que la radio est un instrument essentiel et qui fait partie de la famille. En gros, la radio, c'est un membre de la famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est partout dans le monde comme ça.
Emmanuel Beautrin, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps sur l'antenne de Couleur FM. On en sait beaucoup plus maintenant sur les radios associatives, communautaires, et puis sur cette journée mondiale de la radio à laquelle on est vraiment très attachés tous ensemble. Merci.
Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Couleur FM.
Il est où ? Il est où ? Kananeni sogo ya kumafonye Kanandu subo wele kena Netekele fe
Voilà, nous sommes toujours sur le 97.1 Couleur FM, c'est Espace Public, et nous venons d'écouter Rokia Traoré avec le titre « Il est ». Elle faisait suite à Emmanuel Boutrin, le président de l'Association mondiale des radios communautaires, qui nous parlait de la journée mondiale de la radio. Connaissez-vous Basta ?
Basta, c'est un magazine en ligne. Il fait partie de nos réseaux de médias citoyens, des médias attachés à une information libre et indépendante. Et pour cause, chez Basta, le mot d'ordre journalistique, c'est plutôt l'investigation. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené ce mois-ci, bien malgré lui, à défrayer l'actualité. Le 11 février, Basta était au tribunal, assigné par Vincent Bolloré pour diffamation. La cause ? Une enquête sur l'accaparement des terres, notamment en Afrique, où apparaît le groupe Bolloré ou ses filiales. La plainte de M. Bolloré vise aussi d'autres personnes, médias, journalistes, citoyens qui ont repris l'article ou les informations de Basta sur leurs sites ou blogs. Ce procès pose donc deux questions importantes. Peut-on mener une enquête critique sur les activités du groupe Bolloré en Afrique et en Asie ? La reprise d'articles d'enquête sur Internet, comme dans les revues de presse, est-elle possible sans menace juridique ? Le magazine Reporter, qui a suivi le procès, estime que celui-ci s'est retourné contre Vincent Bolloré. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2016. Mais c'est l'occasion pour nous de découvrir tout d'abord un peu mieux Basta, avec l'un de ses journalistes, Simon Gouin, que nous avions rencontré en décembre dernier lors de la COP21 à Paris.
Nous sommes avec Simon Gouin. Simon travaille pour le magazine Basta, Basta Mag. Bonjour Simon.
Bonjour Thierry.
Alors Basta Mag, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce qu'est Basta ?
Alors Basta, c'est un site qui a été créé fin 2008, qui parle de l'actualité sociale et environnementale. Enfin, l'actualité, on écrit plutôt des formats longs, des enquêtes, des reportages, où on essaie à chaque fois d'imbriquer les deux dimensions, l'environnement, le social. Et on a à peu près un contenu par jour sur Basta.
Basta Mag, on le trouve où ? Ça se lit où ?
Alors Basta Mag, c'est que sur Internet. www.bastamag.net. Donc on est vraiment en ligne, en accès libre. Et on propose aux lecteurs de nous soutenir, voilà, s'ils aiment notre contenu.
Voilà, alors Basta Mag, c'est une publication régulière. Vous êtes combien à y travailler ?
Alors maintenant, on est 8 salariés. Dont 7 journalistes à plus ou moins un temps complet, mais on arrive à 6 équivalents temps plein à travailler, voilà, vraiment sur ce projet-là, sur l'Observatoire des multinationales. C'est aussi un des projets qu'on a développé ces dernières années.
Et vous êtes sous quel statut ?
On est une association, en fait, l'association Altermedia, et on édite Basta Mag et l'Observatoire des multinationales.
6 salariés, c'est tendu ou il y a encore de la marge de développement ?
6 salariés, actuellement le budget permet d'avoir, donc on était à 6 jusqu'il y a 2 mois, maintenant on est à 8.
À 8, pardon.
Voilà, mais chaque année à peu près on a une embauche depuis que Basta Mag existe. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On espère que ça pourra continuer parce que finalement il y a toujours de l'activité à faire, des articles en plus à écrire, d'autres projets à mener avec d'autres acteurs, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Ouais.
Donc ça existe, on peut être gratuit, rester libre et malgré des recherches de subventions, etc. C'est possible.
Bah, c'est vraiment notre objectif, on parie en... d'avoir une multiplicité de financements pour justement ne pas dépendre d'un seul. Mais évidemment, notre objectif, c'est surtout que nos lecteurs nous soutiennent encore plus et qu'on arrive un jour à les rêvons à 100% de notre budget financé par nos lecteurs. Ce serait vraiment formidable parce que sur les 8 salariés, on est 2 presque à temps plein à faire de la recherche de financement, et donc, alors qu'on est journaliste et qu'on aimerait plutôt faire des enquêtes.
Voilà. Voilà, et quant à l'indépendance et la liberté, ça ne fait aucun doute, il suffit que les auditeurs se rendent sur le site internet, ils se rendront tout de suite compte du degré d'indépendance de Basta. Et d'ailleurs, justement, vous avez parlé de ces activités de contrôle démocratique, notamment que vous faites. Vous ne faites pas que publier sur le site internet, vous publiez aussi de vrais ouvrages de temps à autre, et il y a quelques mois est paru le livre noir des banques.
Oui, c'est ça, alors c'était en février, on a publié ce livre qu'on a... coécrit avec l'association ATTAC. En fait, on s'est dit qu'on allait à la fois associer nos journalistes, qui nous n'étions pas forcément spécialisés sur le sujet, et puis des experts, des chercheurs, des universitaires qui, eux, connaissent bien ce sujet-là, la finance, les banques, le contrôle des banques, etc. Et donc, avec l'association ATTAC, on a fait ce travail conjoint, un travail vraiment de vulgarisation, d'essayer de voir... depuis 2008, qu'est-ce qui a changé dans le secteur bancaire ? Est-ce qu'il y a plus de contrôle dans la finance, etc. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu raconter dans ce livre.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de votre projet donc, sur l'Observatoire des multinationales. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ?
Alors, l'Observatoire des multinationales, ça a été créé en septembre 2013. L'idée, c'était d'avoir un site un petit peu plus spécialisé que Bastamag, qui s'adresse à un public aussi un peu plus spécialisé. En fait, sur ce site, on observe, on essaie d'écrire des articles, des enquêtes sur les multinationales, en priorité françaises, et de voir tout ce qui n'est pas raconté la plupart du temps dans les autres médias, c'est-à-dire leurs impacts environnementaux et sociaux. Et on essaie de décrypter tout ça et de petit à petit de suivre au fil des années voilà, les avancées de ces entreprises et aussi ce qu'elles font de plus négatif. Et on espère qu'avec ces informations sur ces entreprises, derrière, ça peut donner lieu évidemment à des changements, des mobilisations, etc.
Les perspectives maintenant pour Basta ?
Les perspectives, c'est vraiment, on essaie de continuer les projets qu'on a lancés. Alors, c'est à la fois à tenter d'accroître notre travail d'investigation, parce que c'est vraiment ça notre marque de fabrique, c'est de faire de l'enquête, et on a à cœur voilà, d'investiguer plus de sujets et d'aller encore plus loin. Donc pour ça, bah, il faut qu'on réussisse à avoir aussi un peu plus de moyens journalistiques, d'avoir du temps. Donc il y a tout cet aspect éditorial. Il y a tout un aspect aussi qu'on développe et qu'on espère continuer, c'est travailler avec d'autres médias, des médias qui sont partout en France, des médias qui sont plus parisiens. On fait des projets d'investigation, de bureaux collectifs pour essayer d'être plus fort, d'échanger des compétences, de mutualisation, voilà. Donc ça, on va d'ailleurs lancer un portail des médias libres pour essayer de mettre en avant d'autres sources d'informations à partir un petit peu de notre site Bastamag. Donc voilà quelques projets en fait qu'on espère mener, continuer à se développer tout en gardant notre identité du départ.
Basta poursuivi en justice par Vincent Bolloré à propos d'une enquête sur les activités du groupe et des filiales de l'industriel en lien avec les processus d'accaparement des terres en Afrique. Mais de quoi parle-t-on exactement ? C'est Jean de Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et auteur du livre « Destruction massive, géopolitique de la faim » qui l'expliquait en 2015 au micro de Couleur FM.
D'abord, je fais une remarque un peu préliminaire. Vous savez que le massacre quotidien de la faim est le scandale de notre temps. Tous les 5 secondes, un enfant de sous de 10 ans meurt de faim. 1 milliard de personnes sur les 7,6 milliards que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimenté, et le continent le plus frappé, c'est l'Afrique. Alors que l'Afrique est un pays, 35,2% selon la FAO, de la population africaine, qui est près d'un milliard maintenant, est invalidée par la faim. Et essentiellement dans les campagnes. C'est le paradoxe, oui, que ceux qui souffrent le plus de la faim, qui meurent et qui sont détruits par les maladies de la faim, c'est essentiellement à 75% les familles paysannes qui, elles, sont chargées de la production de la nourriture. Le drame qui se joue aujourd'hui en Afrique, c'est le vol de terre. Comme sur le coup de spéculation boursière, la spéculation boursière a fait exploser les prix des aliments de base, et donc la terre agricole devient précieuse comme de l'or. Donc les grandes sociétés multinationales, de Vincent Bolloré au Bénin, de Villegrain au Cameroun, des hedge funds, des grandes banques, accaparent des terres africaines, autres au Laos, etc. aussi, mais enfin, essentiellement africaines. Et l'année dernière, 41 millions d'hectares de terres arables africaines, Afrique noire, ont passé entre les mains des multinationales, des hedge funds. Ce qui se passe tout à fait concrètement, c'est les familles africaines qui travaillent là depuis des centaines d'années, parfois par des millénaires, des très très vieilles civilisations paysannes. Ces familles sont chassées, manu militari, vers où ? Vers les bidonvilles, d'Addis Abeba, Harare pour l'Éthiopie, Lomé, Cotonou, etc. pour l'Afrique occidentale, les bidonvilles de Dakar pour les paysans sénégalais, où les familles paysannes sont détruites. Dans ces bidonvilles, c'est la prostitution enfantine, c'est le désespoir, c'est la sous-alimentation permanente, mortelle, c'est le chômage pour les pères, c'est la destruction. L'idéologie dominante de la Banque mondiale, qui est très très dangereuse, et qui est derrière tout ça. La productivité du paysan africain est très basse. Les chiffres sont là. Dans les pays du Sahel, par exemple, dans les 7 pays du Sahel. Et on a des relevés très précis dans une année normale, quand il n'y a pas de criquet, pas de guerre, pas de sécheresse, c'est rare. Hein. Enfin, dans une armée normale, un hectare de céréales, là c'est le mille, donne entre 600 et 700 kilos. En Bretagne, en Lombardie ou en Haute-Savoie, un hectare de céréales donne 10 000 kilos. Pas 600, mais 10 000 kilos, 10 tonnes. Et donc, la Banque mondiale dit, mais écoutez, regardez-moi cette situation, cette productivité totalement insuffisante des pays africains, ça va beaucoup mieux de reprendre, c'est beaucoup mieux de reprendre ces terres à ces paysans qui visiblement n'arrivent pas à les faire fructifier, financer, parce que la Banque mondiale paye les prêts, hein, c'est Bolloré qui ne paye pas, c'est la Banque mondiale qui lui donne le prêt, le donner entre les mains des multinationales qui, elles, ont les capitaux, ont l'instrumentalité, qui ne travaillent pas à la houe, etc., mais qui ont des tracteurs, etc., et qui ont accès au marché. Ce que font les multinationales avec les crédits de la Banque mondiale, ils rachètent, ils ramènent, ils rabassent ces millions et ces millions d'hectares de terres, expulsent agricoles africaines, expulsent les familles africaines, importent les Sri Lankais ou les migrants du Pakistan, etc., etc., leur payent une salaire de misère, produisent des roses, des fleurs, des pommes de terre, etc., qui sont exportées vers où ? Évidemment pas par les bidonvilles africains, qui sont maintenant les paysans, mais dans les pays à fort pouvoir d'achat.
En écoutant Jean de Sickler, on comprend beaucoup mieux le processus inhumain de l'accaparement des terres par les grands industriels et financiers du monde entier. Et on voit aussi bien que Basta n'est finalement pas la seule voix à dénoncer les activités du groupe Bolloré ou de ses filiales. Allez, une petite douceur pour se remettre de tout cela.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Girl.
Sur Couleur FM, sur le 97.1 dans le Nord-Isère. Notre émission touche à sa fin et je ne voudrais pas terminer ce mois de février sans entendre de nouveau la voix de Stéphane Hessel. Il est mort il y a 3 ans maintenant, dans la nuit du 26 au 27 février. Résistant pendant la guerre, Stéphane Hessel avait participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme en 1948. Amateur de poésie et humaniste, il reste le symbole de la construction d'un monde de paix dans la seconde moitié du XXe siècle. Je l'avais rencontré l'année précédente, en 2012, à l'occasion d'une interview dont je vous propose de réécouter un extrait maintenant. Il était question de résistance et d'espérance.
Stéphane Hessel, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de résister aujourd'hui ?
Je dirais que nous sommes face à deux forces dont la violence se fait de plus en plus sentir. La force de la finance, d'une part, et la force des pouvoirs politiques, de l'autre. Et curieusement, au lieu que ces forces s'équilibrent, se balancent, que la force du pouvoir politique soit là pour réguler et pour minimiser l'impact nocif de certains aspects de la force financière, on a l'impression qu'ils sont en complicité et que la troisième force, qui devrait être celle des citoyens, qui devrait être celle de l'opinion publique éclairée, celle de l'expérimentation sociale, l'économie sociale et solidaire, cette force-là se cherche, se trouvera sans doute un jour, mais pour le moment constate qu'elle n'a pas la puissance nécessaire pour agir à l'encontre de la complicité entre les deux autres. Si vous voulez, ce qui me paraît grave aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société mondiale de plus en plus globalisée et que ceux qui voudraient résister, ceux qui voudraient réagir, sont pris dans le faisceau de cette société mondialisée. C'est donc au niveau mondial que des changements sont urgents et essentiels. Je voudrais souligner qu'on sait quels sont ces changements. En l'an 2000, s'est réuni à New York, sous l'impulsion de M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, une grande rencontre des organisations non gouvernementales qui a défini les objectifs de développement du millénaire. Et c'était très clair, il faut lutter contre la pauvreté, il faut veiller à ce que l'énergie soit renouvelable, il faut s'occuper de l'eau, il faut s'occuper de l'éducation. Il y a 7 problèmes clairs. On sait ce qu'il faudrait faire. Pour un très vieux comme moi, la progression générale des valeurs dans le monde est quelque chose que je ne peux pas oublier. Nous avons vaincu le totalitarisme, nous avons fait la décolonisation, nous avons uni l'Europe, c'est pas encore très solide, mais nous avons quand même fait d'énormes progrès dans l'unification européenne. Oui, les choses avancent avec des reculs et nous devons veiller à ce que les progrès accomplis, vous faisiez allusion au programme du Conseil national de la résistance, c'était une volonté de progrès pendant la guerre, donc à un moment où la France était au plus bas, et nous avons réussi après la libération à en mettre en œuvre un certain nombre de valeurs et de principes. Donc il y a eu des progrès, il y a malheureusement des régressions, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que de proche en proche, de décennie en décennie, un certain nombre de valeurs sont maintenant considérées, non plus seulement chez nous, mais dans le monde entier, comme des valeurs sur lesquelles on peut fonder une nouvelle société régulée, société équitable, société avec un peu plus de justice dans toutes les parties du monde. Nous sommes impatients, mais c'est quand même extraordinaire que ce pays, les États-Unis d'Amérique, ait réussi pour la première fois de leur histoire à mettre à la présidence un homme qui est noir aux yeux des blancs. Il est un peu blanc aux yeux des noirs, mais il est quand même extraordinairement noir aux yeux des blancs. Et pour moi, c'est un formidable pas dans la direction d'une meilleure considération de l'unité de notre race humaine. Nous vivons une véritable humanitas, pas seulement que nous soyons des humains, mais que nous constituons tous ensemble quelque chose dont il faut préserver la valeur, l'espérance, le sens de ce qui est bon, juste et vrai.
Voilà, il est temps de nous quitter pour ce mois-ci, le temps de vous donner quelques nouvelles de nos collègues syriens, d'abord Youssef et Louaï, dont nous vous avons fait entendre l'interview lors d'une précédente émission. Depuis Alep sous les bombes, ils ont pu se réfugier temporairement en Turquie et semblent pour l'heure en sécurité. Des nouvelles de Couleur FM aussi, toujours aussi actives au service de votre information. Les jeunes du Nord-Isère ont pu rencontrer les membres de notre équipe début février au stand média du Mondial des métiers à Lyon. Et puis vous allez aussi très vite retrouver sur l'antenne les émissions réalisées au salon Prime Vert le week-end dernier par Sandrine et Laurent qui ont passé un week-end très écolo. Et enfin pour les curieux qui seraient de passage à Tours entre les 9 et 11 mars prochains, n'hésitez pas à vous arrêter aux Assises internationales du journalisme et de l'information où je vous retrouverai volontiers le 11 mars au matin avec un programme dédié aux médias citoyens en France et dans le monde. Je vous souhaite un très bon mois de mars et espère vous retrouver comme de coutume dans sa dernière semaine. Ce sera déjà le printemps.